Midi 1. Mariam, Matin Famille.
Et merci à vous de votre fidélité, où que vous soyez. Vous le savez maintenant, comme tous les jeudis matins, eh bien, on prend le vol direction Bruxelles, où on y retrouve notre coach en développement personnel et professionnel, Nisrine Achak. Bonjour.
Bonjour Mariam, bonjour aux auditeurs et auditrices.
Et nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les jeudis matins sur Midi 1 et sur Midi1.com.
Et moi donc.
Alors on parle ce matin d'éducation positive et bienveillante. Je le disais donc, de plus en plus de parents l'adoptent. On fait un focus ce matin sur cette méthode qui lie à la fois donc bienveillance, empathie, et respect de l'enfant. Mais à quel prix, j'ai envie de dire ? D'abord, comment peut-on définir cette façon d'éduquer, tout simplement, cette éducation dite positive et bienveillante, Nisrine Achak ?
Alors, il n'y a pas de définition à proprement dite, oui. Mais dans les grandes lignes, eh bien, l'éducation positive propose justement l'écoute des besoins de l'enfant, de ses sentiments, d'enlever complètement tout ce qui est fessé, injonctions, les ordres, les punitions, pour justement favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant, de coopérer avec l'enfant, donc une certaine coopération entre l'adulte et le jeune. Et il s'agit d'encourager l'enfant plutôt qu'à le punir, lui apprendre à aimer les règles au lieu de les lui imposer soit par la peur, soit par la force. Et donc qu'il comprenne en fait pourquoi il y a ces règles, pourquoi il y a ces limites, et il adhérera plus facilement que si on le menace à chaque fois pour un oui ou pour un non.
Alors est-ce qu'on peut parler de révolution ou d'illusion, Nisrine Achak?
Eh bien, là, j'avoue que tous les professionnels n'adhèrent pas encore à ce concept. Il y en a qui sont, voilà, qui l'adoptent déjà. D'ailleurs, par exemple, ici à Bruxelles, on voit déjà des écoles adoptant cette pédagogie, voire le jour, où ils prônent justement l'écoute des besoins de l'enfant et de ses sentiments. Et en termes scolaires, cela permet aussi à l'enfant d'avoir plus confiance en lui et d'apprendre à mieux, plus facilement. Et il s'organise mieux dans son travail vu qu'on favorise l'autodiscipline. Et entre les élèves, ils sont tournés les uns vers les autres. Il y a moins de rapports de force entre eux. Et c'est un concept qui est basé sur les découvertes en neurosciences et les lois naturelles d'apprentissage de notre cerveau. Et il y en a d'autres qui disent qu'il faut faire attention au réflexe inverse qui rimerait avec laxisme, permissivité et mollesse, vu que l'éducation positive est certes douce, mais elle doit aussi fixer des règles à l'enfant, elle doit poser un cadre pour qu'il puisse grandir tout en sécurité, parce qu'un enfant qui n'a pas de limites, qui n'a pas un cadre bien délimité, etc., ne pourra pas grandir avec une certaine
pas en sécurité.
Confiance.
Oui.
Voilà, exactement. Mmh. Et donc, en fait, cette pédagogie aussi, elle montre que les menaces, les cris, etc., peut aussi bloquer le raisonnement chez l'enfant et favoriser le repli sur soi. Et donc, il agira alors plus par peur, avec de l'intelligence ou d'une manière autonome, et son cerveau produira plus du stress et de la cortisone. Et honnêtement, pour l'instant, voilà, comme c'est tout récent, cette éducation positive et bienveillante, voilà, il y a un peu de tout. Il y a des professionnels qui adhèrent déjà et qui le pratiquent, tant le corps professoral que le milieu médical avec les médecins, etc., et les psychologues. Et puis les parents aussi, voilà, là aussi, il y en a qui adhèrent, il y en a qui n'adhèrent pas.
Et absolument.
Voilà, il n'y a pas encore assez de recul.
Voilà,
pour pouvoir dire si c'est une réelle révolution ou si c'est juste une illusion.
C'est ça. Alors pour tous ces parents justement qui restent assez réticents, on va dire, assez sceptiques à cette nouvelle manière d'éduquer, quels pourraient en être les avantages ? Vous avez beaucoup parlé de communication non violente. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur les avantages que cela peut avoir sur les enfants et les parents, sur le quotidien en général?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, tellement qu'il y a d'avantages dans la communication non violente avec les enfants, ici, par exemple, à Bruxelles, et pas qu'à Bruxelles, en Belgique en général, il y a plein de petits ateliers qui sont faits même dans certaines écoles, justement, pour apprendre aux enfants la communication non violente, parce qu'elle a énormément de bienfaits. Et tout d'abord, cela permet en fait d'accueillir des actes ou des comportements qui nous déplaisent, tout en gardant la porte ouverte aux émotions et aux besoins de chacun, donc dans les deux parties, tant chez l'enfant que chez le parent. Et puis aussi, cela transforme les conflits en occasion de communiquer sans s'accuser. Parce que quand on communique avec tu, ben, oui, ça tue déjà la communication. Tandis que si on parle en je, mm-hmm, d'abord énumérer les faits, parce que ça vient, la communication non violente est en quatre étapes. Il y a d'abord l'observation, donc on communique les faits, on répertorie les faits, et puis alors on communique bien nos émotions, ce qu'on a ressenti au moment où ça s'est passé, et on parle en je, puis on fait un focus sur nos besoins, de quoi on aurait besoin pour que ça ne se reproduise plus. Et enfin, on formule une demande à l'autre. Moi, je dis toujours, veillez à ce que votre demande, elle soit quand même négociable. Parce que sinon, on a l'impression d'imposer à l'autre, que ce soit à l'adulte ou à l'enfant, hein, voilà, de formuler une demande négociable. Et donc, du coup, de parler tout le temps en je et pas en tu. Et parce que quand on accuse l'autre, bah, ça ferme déjà la communication. Et l'autre se met, comment dire, sur une position défensive et il n'y a plus moyen de communiquer. Et surtout, ça permet aussi de poser des limites et de poser des règles grâce à la collaboration. Alors, le parent aura plus facile à, comment dire, à faire adhérer son enfant aux règles par la communication non violente que s'il commence à lui crier dessus, à l'humilier, ça n'ira pas. Mmh. Et cela permet aussi à chacun de prendre la responsabilité de ses besoins. Donc même à l'enfant, ça lui apprend à identifier ses besoins et à les communiquer. Parce que ce n'est pas une chose aisée, hein. Même à l'âge adulte, encore maintenant, je vois bien dans ma clientèle, les gens n'arrivent pas encore à identifier leurs besoins et à les exprimer. Et parfois, c'est même tabou, ils ont peur même de paraître égoïstes. Et donc aussi, un autre avantage par rapport à la communication non violente, eh bien, c'est que l'enfant se sente écouté et que quand il a l'impression que son point de vue est pris en compte, il va moins faire de crises et pleurer et lui aussi sera à l'écoute de l'adulte. Oui. Et donc, ça sera vraiment fluide leur communication et ça sera dans les deux sens.
Dans les deux sens. Et on ne peut pas ne pas s'arrêter sur les difficultés au quotidien également, Nisrine Echak.
Oui, bien sûr, une éducation pareille demande un grand self-contrôle des parents et de garder vraiment son calme, surtout lorsque nos petits loulous font d'énormes bêtises et qu'on a qu'une envie, c'est de crier.
Oui.
Mais ça demande vraiment de garder son calme. Ça demande aussi une certaine gestion de nos émotions. Et c'est bien simple. Pour être une bonne maman ou un bon papa, il faut déjà, nous, être bien dans notre peau, être dans de bonnes conditions. Et pour ça, voilà, il faut avoir une bonne hygiène de vie, avoir un bon sommeil, une relaxation, du temps pour ça, etc. Voilà, moi par exemple, si j'ai pas mes heures de sommeil, je sais que le lendemain je suis désagréable, pas qu'avec mon fils, ou pas qu'avec mon fils, mais avec tout le monde. Mmh. Donc c'est super important de faire attention à son hygiène de vie pour pouvoir être justement, comment dire, ouvert à tout ce qui peut se passer et réagir de la bonne manière. Ça demande aussi, donc du coup, d'être attentif à ses besoins, d'être, de, comment dire, d'avoir pratiquer une certaine activité aussi physique où on peut justement décharger toute cette colère et frustration et stress qu'on peut accumuler dans notre quotidien. Et il faut trouver aussi tous les petits trucs en fait qui vous aideraient. Parce qu'on part du principe dans le développement personnel que tout le monde est différent, chacun est unique. Et donc ce qui peut marcher pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Et donc c'est vraiment s'arrêter et réfléchir, ok, qu'est-ce qui me permettrait de m'aider à tenir le coup au quotidien pour pratiquer, pour appliquer justement cette éducation positive.
Oui. Alors Nisrine Echak, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel et professionnel. Les semaines précédentes, je me rappelle, vous nous parliez de ces parents qui n'existent pas de parents parfaits, mais des parents qui font de leur mieux. Alors, en préparant cette émission, en parlant avec une proche, Elle me demandait si ce n'était pas justement une échappatoire aux erreurs, entre guillemets, d'éducation vécue dans notre enfance à nous. Est-ce qu'on ne fait pas les choses de telle sorte à ce qu'on ne répète pas ce qu'on a vécu nous dans notre enfance? Et je le rappelle, ces parents qui ont fait de leur mieux, hein, je le précise, je le souligne. Et voilà, il n'y a pas de parents parfaits, mais que des parents qui font de leur mieux. Et ça, j'avais beaucoup apprécié.
Exact. Il n'y a pas de parents parfaits. Même moi, je fais des erreurs avec mon fils et je risque encore d'en faire. Et sans doute lui aussi, à son tour, quand il sera papa, il en fera aussi. Bien sûr, c'est juste être conscient et vraiment, avec honnêteté, avec soi-même, dire, voilà, en tant que parent, je fais de mon mieux pour mon enfant, pour qu'il soit un adulte, qui devienne un adulte épanoui et accompli. Et bien sûr, ces parents qui adoptent ce genre d'éducation, c'est généralement parce qu'ils n'ont pas eu... c'est pas qu'ils n'ont pas eu, c'est qu'ils ont mal vécu l'éducation traditionnelle D'accord. qu'ils ont eue dans leur voilà, enfance. Et du style, ils vont préférer... remplacer les injonctions par de la coopération, par des propositions à leur enfant, au lieu de lui dire « tu vas vers ci, tu vas vers ça », ils vont plutôt favoriser la coopération en disant « est-ce que tu ne ferais pas plutôt ça ? Est-ce que tu aurais envie de faire ci ?» ils vont privilégier le dialogue au cri, ils vont privilégier aussi la réparation de la bêtise au lieu de la punition. Par exemple, un enfant, et ça j'ai assisté auprès de certains proches qui appliquent déjà ce genre d'éducation. Par exemple, que quand l'enfant renverse exprès un verre de lait, voilà, pour l'avoir vécu, je dis que mon amie, elle s'est pas énervée. Moi, je pense que je me serais déjà énervée, mais elle non, parce que l'enfant, tout en la regardant, il a versé le voilà, le verre de lait, et elle n'a pas du tout crié. Elle lui a imposé de nettoyer. Donc elle l'a laissé d'abord lui se débrouiller à nettoyer le lait qui était renversé, et puis elle s'est mise à sa hauteur pour l'aider. Et c'est vraiment, en fait, ils préfèrent l'harmonie dans leur famille, que ça soit continuellement des rapports de force, des rapports de des conflits, etc.
Mais est-ce que ça a marché surtout? Je suis sûre que nombreux de nos éditeurs se posent la question, est-ce que ça a marché? Est-ce que cet enfant a essuyé et s'est exécuté tout de suite?
Oui, franchement, parce que moi-même, j'ai resté étonnée. Je me suis posé la question si moi, mon fils aurait accepté de nettoyer. Mais elle, son fils, l'a fait.
D'accord.
J'étais vraiment scotchée, j'étais étonnée. Mais après, il faut aussi faire attention parce que je vois, par exemple, dans d'autres... là, c'est plus dans mon entourage privé, où, par exemple, t'as des parents qui, eux, n'ont pas eu l'enfance qu'eux auraient voulu. Ils l'ont mal vécu. Et donc, du coup, ils font tout à fait l'inverse avec leur enfant. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, avec le recul, et ils me le disent, qu'ils regrettent parce qu'en fait, l'enfant est devenu un enfant roi. Donc, tout ce qu'eux n'ont pas eu dans leur enfance, ils l'ont donné à leur enfant. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, l'enfant se considère comme l'enfant roi. Donc, c'est vraiment... faut vraiment faire attention.
Voilà, justement, ça fait partie des risques.
Dans l'inverse.
Oui, c'est ça. Et j'allais y venir. Ça fait partie des risques aussi, des conséquences, on va dire, Nisrine Achak.
Oui, bien sûr. Parce que du coup, il y a des parents qui adoptent un comportement tout à fait inverse de leurs parents. Ils ne sont pas du tout dans les injonctions, dans les limites, dans les règles, etc. Et à donner à leur enfant tout ce qu'eux n'ont pas eu que quand ils étaient petits. Mais le problème, c'est que l'enfant, quand il est tout petit, déjà, lui, il n'aime pas les règles. Et donc, il va en profiter. Un enfant a aussi, c'est faire preuve aussi de manipulation. On ne s'en rend pas compte. On a l'impression qu'un enfant ne connaît pas ça. Oh, que si, à sa manière, à sa petite échelle, il sait aussi user de la manipulation. Et donc, du coup, ce qui peut arriver, c'est que, un enfant peut devenir un enfant roi. Et là, c'est galère pour revenir en arrière, poser des limites. Et il faut généralement même se faire aider avec des pédopsychiatres pour poser des actes ou des coachs en parentalité, parce que ça devient très compliqué. Et d'ailleurs, en parlant de risque, l'autre risque aussi qui peut se passer, c'est que les enfants, et là c'est plus dangereux par contre, les enfants qui grandissent dans ce genre d'éducation, dans ce monde-là, ce sont aussi ceux qui ont le plus de risque d'être harcelés à l'école. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se venger. Vu qu'à la maison, ils sont dans l'écoute, dans la bienveillance, dans l'empathie, dans l'amour, dans la bienveillance, eh bien, eux ne savent pas se venger. Et ils ne savent pas, du coup, comment se défendre face à leur agresseur. Et donc là, du coup, il peut s'installer un harcèlement soit scolaire, soit même en dehors du cadre scolaire. Franchement, c'est vraiment, il y a des risques dans les deux sens. Et aussi, si les parents responsabilisent trop leur enfant, celui-ci peut perdre son insouciance aussi. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu.
Oui, un juste milieu et justement vos conseils afin de trouver ce juste milieu. Ils sont très nombreux, ces parents qui nous écoutent et qui vous écoutent attentivement. Est-ce que vous auriez des conseils donc ce matin ?
Honnêtement, je n'ai pas vraiment de conseil à proprement dit. Si j'en ai un seul,
oui.
C'est, je dirais, voilà, si vous avez vraiment envie de tester ce genre d'éducation, c'est de vous faire accompagner. Parce que, voilà, sur Internet, dans les journaux, etc., il y a de tout y a à boire et à manger. Il y a des bonnes informations comme de mauvaises. Et le but n'est pas non plus d'utiliser votre enfant comme un cobé. C'est vraiment de vous faire accompagner par des personnes qui ont vraiment testé, qui pourraient vraiment vous donner des tuyaux, des conseils ou des pratiques, des méthodes pour justement arriver à bien appliquer cette éducation positive et bienveillante.
Nisrine Achek, vous êtes coach en développement personnel et professionnel, je le rappelle, à Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur les ondes de Médias.
Merci à vous aussi et merci aux auditeurs et auditrices.
Ils sont toujours fidèles à ce rendez-vous. Merci, à la semaine prochaine. Et c'est un entretien que vous pouvez réécouter sur notre site médias.com.